travail d'artiste, d'actrice, de danseuse, mais aussi une fonction officielle au ministère de la Culture. Alors, en quoi ça consiste ?
Au ministère de la Culture, bon, je dirige la section danse de l'école de musique et de danse de mon pays.
Donc du Burkina Faso.
Du Burkina Faso.
Donc tu diriges ça, ça signifie organiser des structures, participer à des colloques ?
Oui, on participer à des colloques, organiser les femmes dans le domaine culturel, des animations dans les quartiers, des associations.
Ça veut dire que l'État burkinabé en ce moment se préoccupe de la culture.
Beaucoup.
Mais on a vu culture et culture, culture traditionnelle très importante, culture plus contemporaine. À quel niveau est-ce que ça se situe ?
Parce que le gouvernement vraiment fait beaucoup pour la promotion de la culture. Je prends l'exemple même du FESPACO déjà, dont tout le monde entier en parle. Et on a la Semaine nationale de la culture. Et la grande participation, c'est qu'il y a des femmes. Du moment où il y a l'art culinaire et des coiffures, il y a plein de choses. Et même la magie traditionnelle.
Donc, c'est faire revivre, conserver plutôt l'art traditionnel
oui.
Qu'une culture contemporaine.
Oui.
Mais est-ce que l'État s'engage financièrement ou est-ce que ce n'est que palabre ?
C'est un peu difficile, comme dans tous les pays, le volet activité culturelle est considéré comme une activité non productive. Et deux fois, s'il y a crise, il y a des coupes sombres, ça c'est partout.
En ce moment, il y a des coupes sombres, alors, si je comprends
c'est
bien.
C'est partout, donc...
Moi, j'aimerais savoir un peu, quand même, plus précisément ce que fait ce ministère de la Culture. D'accord, il veut ranimer les choses. Comment il s'y emploie ?
Par exemple, on organise souvent des colloques sur la préservation de la danse africaine qui est en voie de disparition parce qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Donc, bon, il y a ce souci. Et surtout, des artistes africains. Nous avons fait appel à l'UNESCO pour nous donner des fonds pour ça. Et ils ont mis les moyens et on a eu notre premier, le colloque qui s'est déroulé, c'était à Yamoussoukro. Et il fallait trouver la solution pour ces danses qui sont en voie de disparition. Bon, mais je ne pense pas que...
oui, non, mais c'est très intéressant. Alors, quelle a été la solution ? Comment ça s'est présenté ? Parce que, quand même, ça. Je crois que tu as été très active à ce colloque. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
Ça serait long. Or, on n'a pas beaucoup de temps.
Si.
Je ne vais pas recommencer à dire tout ce qui s'est passé au colloque. Simplement, on a passé près de 2 semaines à trouver les solutions. Et le ministre, à l'époque, qui était Dion Sandia, nous pose un problème comme quoi il y a une danse traditionnelle dans son village qui était très jolie et qui est en voie de disparition. Et le Burkina Faso aussi, dans mon village, on a une danse aussi qui disparaît. Et moi, j'ai demandé, après 2 semaines, j'ai demandé à tous ces hommes, nos maris qui étaient là, des danseurs chorégraphes, des hommes qui œuvrent dans la promotion, pour la promotion de la culture, je les ai demandé, mais il y a quelque chose. Je pense que vous êtes, pas ne pas dire beaucoup, parler beaucoup, vous êtes à la base de cette disparition. Si je peux demander, je ne vois pas quel est l'homme ici, nos danseurs, chorégraphes, nos ministres de la culture, quel est l'homme qui est ici et sa femme est dans une des troupes de théâtre. Et pourtant, par exemple, j'ai vu des grandes troupes telles que la troupe nationale du Bénin, la troupe nationale du Togo, dirigée même par un prince. Je les ai demandé si leurs femmes luttent à leur côté pour la promotion de la culture et la disparition de nos danses.
Et la réponse ?
Bon, la réponse, c'était difficile. Et j'ai dit, nous, on pense que c'est nous les femmes. Je n'ai jamais vu un homme prendre son enfant, c'est rare, sous les genoux et commencer à faire danser et chanter à l'enfant. C'est nous. Et on a demandé quand même qu'ils soient un peu tolérants pour laisser les femmes venir participer à la promotion de la culture dans les villages et puis dans les structures populaires.
Est-ce qu'au niveau contemporain, si je peux dire comme ça, il y a quelque chose qui se passe, un nouveau théâtre pour Kinabé?
Il y a beaucoup, par exemple, l'atelier de théâtre burkinabé qui doit venir ici l'année prochaine.
Qui joue spécialement des pièces écrites au Burkina.
Au Burkina, nous jouons presque toutes les pièces. Du moment, moi-même, j'ai joué beaucoup les scènes de Molière. Et je l'ai même adapté. J'ai pris la scène de ménage et j'ai adapté ça à la scène de ménage burkinabé africaine. Et pour la journée de la femme, j'ai pris trois femmes et nous l'avons joué. On n'a pas eu...
Est-ce qu'il y a des auteurs contemporains de théâtre?
Oui, beaucoup. Il y a Jean-Pierre Guengani, il y a...
Et eux sont joués.
Comporé. Et c'est joué. Et c'est joué.
Moi, avant de parler de ton projet qui te tient énormément à cœur, il y a quand même, dans tout le discours que tu m'as tenu ici, mais qu'on a eu la chance de se rencontrer précédemment, je sens une espèce d'ambiguïté entre quelque chose de très contemporain et puis un attachement aux traditions. Par exemple, tu viens faire une école de théâtre à Paris, tu participes à un spectacle qui est quand même une adaptation d'un mythe africain, et en même temps, tu as un grand attachement à ta culture. Il n'y a pas une espèce des fois de tiraillement entre ces deux choses?
Non, il n'y a pas de tiraillement. Par exemple, moi, je suis venue à l'école Jacques Lecoq. Bon, j'ai confronté ma culture à d'autres cultures et j'ai montré un peu ma culture aux autres, tel que Soumdiata, aujourd'hui, on le joue à Genève. Ça a été, par exemple, j'ai voulu montrer quelque chose. J'ai eu à participer à faire la danse, l'animation dans les écoles, surtout des écoles, des villes qui sont jumelées au Burkina. C'est pour un peu parler de mon pays et ça m'a aidé aussi l'école Jacques Lecoq sur le plan de la mise en scène. Par exemple, moi je suis une actrice autodidacte, j'ai appris le théâtre comme ça, sur la place du marché et c'est comme ça.
Mais qu'est-ce qu'il est important pour toi de transmettre?
Le message que je veux transmettre en venant à l'école Jacques Lecoq.
Ou en jouant ici, j'ai l'impression que, par exemple, dans un spectacle comme Soundjata, est-ce que c'est simplement, c'est jamais simple, mais une manière d'évoluer, une manière de se situer avec le temps, les éléments, ou bien un message encore plus précis?
C'est une manière aussi d'évoluer. Raison de plus que je suis devant votre radio ici. Si je n'étais pas venue à Soundjata et je suis restée au Burkina, peut-être que je n'aurais pas la chance de vous rencontrer ou bien de parler un peu avec les autres femmes.
Ça, c'est pour vous. Mais pour nous, sur la scène, est-ce qu'il y a pour vous un message du genre, je ne sais pas, voilà nos traditions africaines, découvrez-les, participez à ça.
Mais c'est ça. Si en nous montrant notre culture, on essaie de faire connaître notre culture et c'est pour cela quand on finit, on continue la fête au village, au clair de lune sous le grand baobab. C'est ça qui fait les animations et nous chantons, nous dansons et puis on partage avec le public.
Mama, avant de se quitter, j'aimerais que tu nous parles d'un projet qui te tient énormément à cœur, c'est le One Day.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une compagnie théâtrale composée que d'enfants. Et j'ai dénommé ça la compagnie théâtrale des Amis Réunis. Et le One Day, c'est la calebasse. J'ai donné ce nom, la calebasse, parce que c'est une plante rampante. Et comme message, nous voulons propager notre culture africaine. Et c'est pour cela que j'ai pris le WAMD.
Donc ça, c'est un très vaste projet que tu entends développer. Je crois que tu as déjà commencé. Donc faire travailler une troupe exclusivement d'enfants et encore grande
de
ambition.
De 6 à 12 ans.
La faire voyager, circuler.
Oui, déjà tourner. La troupe est opérationnelle. Et si on participe beaucoup à des festivité officielle, quand le chef de l'État invite les autres chefs de l'État, nous donnons des spectacles. Et surtout aussi dans les écoles et aux enfants qui n'ont pas la facilité d'accès au spectacle. Bon, peut-être que je rêve hein, ce que je suis en train de faire. Bon, je me suis dit à l'heure où les structures populaires d'autrefois qui assurent l'éducation traditionnelle des enfants ont complètement éclaté. Bon, j'ai dit peut-être en créant cette petite troupe, bon, on pourra rattraper quelque chose.
Mais une troupe, ça demande quand même des moyens. Alors on profite que nous sommes ici à la radio. À cette occasion, à l'issue de la dernière du spectacle de Sundjata qui a lieu au Grutli, qui sera samedi prochain, nous serons le 6 octobre, vous organisez une soirée qui sera au bénéfice de cette troupe d'enfants. Donc on peut convier tout le monde à aller voir encore le spectacle si ce n'a pas déjà été fait. Et à ceux qui l'ont déjà vu, alors de rejoindre le Grutli après le spectacle. Il y aura de la musique, il y aura à manger. Je crois que ça vaut vraiment la peine. Et puis vous verrez Mama, vous pourrez lui poser toutes les questions que je n'ai pas posées et en savoir beaucoup plus. En tout cas, nous te remercions d'être venu à notre micro et peut-être que nous te retrouverons prochainement. Merci.
Merci.
Alors nous vous rappelons, encore jusqu'au samedi 6 octobre, Sundjata au théâtre du Grutli à Genève. Il n'y a très très peu de places disponibles pour les derniers soirs. Alors n'oubliez pas de réserver au théâtre du Grutli si vous avez encore envie de voir le spectacle. Et n'oubliez pas le rendez-vous que vous a proposé Mama de venir rejoindre, même après le spectacle, le théâtre du Grutli pour soutenir la jeune troupe d'enfants du Burkina Faso qu'elle anime et déguster, je crois, un magnifique buffet africain, du jus de... Comment ça s'appelait? Gingembre. Jam à côté, voilà, qu'elle me souffle. Qui est délicieux, je vous assure, on a goûté, c'est très très bon. Alors n'oubliez pas ce rendez-vous, samedi 6 octobre, au Grutli à Genève. Histoire de se remettre dans l'ambiance de notre génération irrésistible et abusive, précisons-le bien, puisque c'est dans cet état d'esprit que vous devez vous brancher, eh bien, je redonne la parole et le son à une de ces charmantes membres de cette génération abusive, Jean Birkin.
Fan de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows? Des birds, des doors, des animals, des moods, des blues. Séparés, McCartney, George Harrison, et Ringo Starr et John Lennon. Ex-fan des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran. Idem, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis.
Alors, qui est cette fameuse génération abusive qui est tellement irrésistible? Ces gens dont nous parle Jacqueline Remy dans un bouquin qui a été édité au Seuil il n'y a pas longtemps, je crois, au printemps de 90, hein, quelque chose comme ça, oui. Alors, on se demande vraiment, j'espère bien que Annette et Evelyne, nos charmantes invitées habituelles du mois qui viennent de l'Inédite, je vous rappelle, l'Inédite Librairie des Femmes qui se trouve à Genève, à la rue Cardinal Mermillon. Il est bon de rappeler toujours ces choses-là. Librairie qui s'est spécialisée, bien sûr, pour faire connaître les livres écrits, publiés, édités par les femmes et puis d'autres, bien sûr, aussi. Alors, qui sont ces fameuses irrésistibles, Annette et Evelyne?
D'abord, on peut dire tout de suite, c'est pas seulement des femmes, hein, c'est des hommes et des femmes. C'est vraiment une génération d'êtres humains avec les deux catégories qui existent. Ce sont disons les plus représentatifs, selon l'auteur, sont ceux qui sont les gens qui sont nés entre 1945 et 1955, avec évidemment des marges sur sur les deux côtés, ou disons des grands frères de ceux qui sont nés entre 1945 et des petits frères de ceux qui sont nés après 1955. Donc c'est des gens qui aujourd'hui ont 40, 35, 40, 45 ans. Et ou jusqu'à 50 ans on peut aller. Et dans le tout au long du livre, ils sont appelés les baby-boomers ou les baby-boomeuses, parce qu'ils sont en fait les enfants d'un grand boom de bébés qui est survenu en France, mais aussi, disons, en général en Europe occidentale, après la Deuxième Guerre mondiale.
Parce qu'on manquait de bébés, donc suite à la guerre, effectivement, comme toute guerre, il y a effectivement beaucoup de morts, etc. Et la France était vide, l'Europe était à bien des endroits fortement touchée. Et donc, les gouvernements ont encouragé tout à coup à la procréation. Et la famille est devenue le mythe de beaucoup de pays européens à ce moment-là.
Oui, mais curieusement, le phénomène ne s'est pas produit après la Première Guerre mondiale, qui avait été aussi sanglante et qui avait... qui avait mangé beaucoup d'hommes, de pères de famille, etc., dans les familles françaises et autres. Mais on n'a pas assisté à l'époque. Il y avait beaucoup, apparemment, il n'y avait pas cet optimisme ou ce désir de bonheur qu'ont voulu les gens qui avaient terminé la Deuxième Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de déchantement, il y avait beaucoup de au fond, il y avait une espèce de dépression, ou état dépressif général qui faisait que les gens ne se sont pas tellement adonnés à faire des enfants. Mais effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, même disons dans les dernières années de la guerre, quand on sent que les choses vont tourner du bon côté, si on peut dire, les gens se mettent à faire des enfants. Effectivement, comme tu dis, la famille devient la valeur de référence principale. Elle incarne la paix, le bonheur, la réussite sociale. S'il y a un endroit où on peut être heureux, c'est dans la famille. Et avec sa femme ou son mari, avec sa maman ou son papa, pour le petit boomer qui va naître ou la petite boomeuse qui est en train de naître.
Mais là, la femme joue un rôle particulier alors dans cette famille-là, parce que si les baby-boomers et baby-boomeuses sont aussi bien garçons que filles, il est certain que c'est leur maman qui a joué un grand rôle à ce moment-là quand même.
Ah oui, ils ont eu la chance d'avoir une parfaite maman, si on peut dire. D'ailleurs, tout au long du livre, on assiste à la chance extraordinaire qu'a cette génération. C'est pour ça que certainement elle en abuse aussi, parce que effectivement c'est une génération qui a beaucoup de chance, parce qu'elle n'a jamais connu la guerre, peut-être qu'elle ne la connaîtra même pas, en tout cas pas disons chez elle, elle en a entendu parler ailleurs, mais elle ne l'a pas reconnue chez elle, et elle a commencé le mieux du monde dans un berceau dorloté par une maman qui est à la maison, une vraie mère au foyer, qui aime son rôle, qui n'a pas d'état d'âme sur sa féminité, enfin elle sait qu'elle doit être là et elle est contente d'être là. Elle mijote des petits plats pour son mari, elle s'occupe de son enfant et elle est très heureuse. Alors je crois que ça a été certainement des très bonnes moments. Enfin, la mienne était exactement comme ça. Donc j'ai pas de choix. Annette, des fois, elle me disait qu'elle n'a pas fait les mêmes expériences, mais la mienne telle qu'elle est décrite là-dedans, avec ses bas de nylon, avec sa taille de guêpe, avec ses petits repas pour le mari, avec sa manière de s'occuper exclusivement de son enfant... Mais ça, c'était la mienne. J'entends, j'ai rien à redire. J'ai trouvé tellement vrai que je lui ai fait lire, d'ailleurs, le livre. Et puis, elle s'est retrouvée aussi. Elle a beaucoup aimé.
Parce que c'est vrai que tout au long de ce livre, il y a quelque chose d'assez fantastique qu'on découvre. C'est non seulement la façon de vivre de ces baby-boomers et baby-boomeuses, mais c'est tout le cadre social et politique qui de cette époque-là. Et c'est vrai qu'on découvre, entre autres, que c'est là qu'arrivent les banilons. C'est les Américains qui sont arrivés avec leur finger dans la bouche, hello, OK boy, et qui en même temps amènent les banilons à donner aux femmes qui les acclament dans la rue. Un petit cadeau comme ça de l'Amérique. Et on découvre en même temps the American way of life, et ça, ça frappe l'Europe. Alors ça va influencer aussi pas mal les baby-boomers et les baby-boomeuses. Et ça, je crois que c'est ce qui est assez passionnant dans ce début de livre, c'est de découvrir en même temps que ce qu'on va être. On se demande comment on va nous décrire, parce qu'effectivement, toutes les trois, on est sacrément baby-boomers. On se sent très, très visés. Eh bien, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont bien dire sur nous? Mais en même temps, c'est vrai que c'est assez chouette de redécouvrir ce cadre qui nous a tout juste précédé quand on voyait encore pas assez grand pour comprendre ce qui se passait autour de nous.
Oui, tout à fait. Et je pense que dans ce sens-là, on pourrait peut-être lire un ou deux passages du livre, parce que ce qui est aussi très intéressant, c'est la manière extrêmement vive et dynamique dont Jacqueline Rémy prend son pied, en fait, en nous racontant sa propre histoire, la nôtre aussi, donc vous l'avez bien compris.
Est-ce que tu veux un petit accord de rock'n'roll pour introduire cet extrait que tu as envie de nous lire? Alors, ça se situe dans quelle période?
Pourquoi pas? Eh bien, on va peut-être prendre un petit peu dans l'ordre chronologique et puis donner un petit extrait sur comment effectivement nos parents ont réagi devant l'augmentation du niveau de vie.
I'm gonna give you 30 days to get back home. I done call up a gypsy woman on the telephone. I'm gonna send out a worldwide hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you'll be back home in 30 days. For 30 days. Oh, 30 days. Talked to the judge in private early this morning. And he took me to the sheriff's office to sign a warrant. They don't put a cross charge again you, and that'll be the very thing that'll send you. I won't see that you'll be back home in 30 days. Oh, 30 days. Oh, 30 days. I won't see that you'll be back home.
Et on a le temps de ramer avant de réaliser ses rêves. Car la chambre à coucher, même achetée chez Lévitan, le tourne-disque, le réfrigérateur, la machine à laver, le lampadaire, le téléphone, la cocotte minute, le lino de la cuisine et la moquette du salon, cela fait bien des envies onéreuses à assouvir. D'autant que papa, qui ne veut pas s'acheter une 4 chevaux, projette de s'offrir une frégate, une panard ou bientôt une déesse. Ça gaz? Non, ça ne gaz pas. Il se contentera d'une ronde quand ses baby-boomers seront tous sortis des langes. En attendant, on ira à la boule en train, comme tous les étés, les vélos dans le wagon de queue. Tout cela coûte cher et le pouvoir d'achat a beau augmenter, le retard à rattraper est considérable. Alors, concernant toujours nos parents, en tout cas, ils ont des enfants. Premier pas, bébé touche de son petit pied nu le carreau froid de la pauvreté. Mais sa maman est là, qui lui réchauffe le cœur, et son père bombe le torse, et tous deux sont fiers. Dès cet instant, le bébé boomer, à travers ses paupières à demi-closes, comprend à quel point il est précieux. Pensez! Il va remplacer dans l'imaginaire familial son grand-père et son tonton disparus trop tôt dans cette sale guerre. Le bébé boomer est conçu, rêvé, programmé pour penser et compenser toutes les plaies individuelles et collectives.
And he took me to the sheriff's office to sign a warrant. They won't put a cross charge again you, and that'll be the very thing that'll send you. I won't see that you'll be back home in 30 days. Oh, 30 days.